Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Groupama Stadium. Ah ben voilà, on ouvre mon micro, c'est mieux. Le Groupama Stadium, donc pour le coup d'envoi de ce match entre Lyon et Auxerre. Salut Edouard.
Christophe, salut coach, bonjour
salut
à tous.
Salut Doudou.
Une ambiance magnifique, le stade est plein cet après-midi, guichet fermé, vous imaginez, pour un match à 15h. Eh bien voilà, c'est un
guichet
dimanche.
Fermé.
Guichet fermé, 56 000 personnes, dont 1000 Auxerrois qui sont dans ce stade. Donc, tout simplement parce que c'est un dimanche après-midi à 15h, il fait beau, c'est les vacances et il y a des prix attractifs. Ouais. Par exemple, de 5€ pour les enfants dans la tribune famille. Voilà, et tout cela, ce combo nous amène un stade plein. Voilà, et une ambiance magnifique, notamment mise par les Lyons 1950 qui, cette année, fêtent leurs 15 ans avec des magnifiques tifos tout au long de l'année. Et là, celui-ci, il est magnifique. Peut-être magnifique aussi pour eux. Ce premier coup franc avec Verretou, avec cette balle dégagée par Jubal Losserrois, ça va peut-être revenir avec Matic qui a le brassard de capitaine aujourd'hui. On n'a encore pas eu l'occasion de donner la compo, mais il y a un festival de feu, de fumigène. C'est magnifique, la tribune des Lyons 1950. On imagine qu'il y a eu les autorisations données par le club, mais ça vaudra quand même un petit billet sûrement lors des commissions de sécurité. Mais pour l'instant, tout est beau du côté de la tribune des Lyons 1950. 0-0 donc dans cette rencontre, dont le coup d'envoi, messieurs, a été donné par une légende locale, Maxime Gonalon, qui est tout jeune retraité, qui a reçu un maillot spécial de la main de ses anciens coéquipiers Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Il a donné donc le coup d'envoi et il est là, lui qui a annoncé sa retraite il y a une quinzaine de jours.
Parfait, l'Olympique Lyonnais, 0-0, Roland, on le rappelle, qui reste sur une très belle série, même si elle a été interrompue en Coupe d'Europe cette semaine avec la défaite face à Beşiktaş.
Interrompue avec un bon match quand même.
Donc ça peut pas casser la dynamique lyonnaise actuelle.
Non, parce que quand tu fais un match comme ça a été le cas, et que tu te dis que tu le refais 10 fois ce match, tu le gagnes 9 fois, ben ça va. Tu peux pas aller contre le football. Il y a des soirs où tu as 7 à 8 occasions, mais tu mets 0 but, et tu as un adversaire qui a 2 occasions, qui met un but et demi.
Ouais. Ça a été le cas par exemple pour Lille l'autre jour contre l'Atlético, quand même, ça a été un drôle de match. Hein.
Ah ben, oui, mais Lille en ce moment, ils ne vont pas les rencontrer. Ah hein, ça, ils sont capables de marquer une heure après que le match soit fini.
C'est vrai que Lyon a l'habitude de jouer le dimanche après-midi. Hein, je crois que c'est la troisième fois en un mois. Roland, la dernière fois, je te disais, est-ce que tu vois Lyon, dans cette formidable remontée, pouvoir aller titiller les trois géants, en quelque sorte, de ce championnat, que sont le Paris, Saint-Germain, Monaco et Marseille? Tu me disais que tu n'y croyais pas vraiment. Éventuellement, quatrième, cinquième et pas plus. Ben, est-ce que tu restes sur cette position?
Oui, parce que bon, Lyon, avec l'effectif qu'ils ont, c'est magnifique, les tifos.
C'est super. Tu vois qu'il faisait beau à Lyon cet après-midi.
On se régale. C'est magnifique. Le match, il va être arrêté. Lyon était dans une bonne passe. Ils avaient trouvé le bon rythme. Mais bon, il y a les tifos. C'est magnifique, la fumée.
Les tifos. Vive les tifos. Tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un coup de vent. Et puis, cela nous a amené un joli banc de brouillard sur le stade. Et donc, monsieur Stéphane, décidé d'arrêter le match.
Je m'incline, c'est magnifique.
Bon, t'as pas complètement répondu à ma question du coup.
Lyon n'avait pas eux aussi l'Europa League le jeudi, je te dirais qu'ils pourraient titiller les cartes. Là, j'y crois pas, mais c'est pas parce que j'y crois pas que c'est tout simplement impossible. Tu me demandes mon avis, j'y crois pas.
Bon, eh ben écoute, on reste sur cette position.
Mais attention, je les vois pas non plus. Je les vois 6-7e, hein, dans le pire des cas.
Dans le pire des cas. Le match est interrompu donc.
Oui, exactement.
Edouard,
j'ai juste le temps, si ça te dit, d'évoquer la compo lyonnaise quelques mots, tout simplement. Parce que Clinton Mata, Aishton Matnonais, Corentin Tolisso, Alex Lacazette, Ernest Nuama et Ryan Cherki sont sur le banc. Alors pour trois d'entre eux, Mata, Tolisso et Cherki, il y a surtout la volonté, on regarde déjà au 10 novembre prochain. Le 10 novembre, il y a le derby ici même. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'ils sont sous la menace. S'ils prennent un avertissement aujourd'hui, vous savez, ces fameux 3 avertissements en 10 matchs. Donc, on préserve du côté de la
blâme, compo. Mais au bout de 15 blâmes, ils peuvent avoir un match.
Voilà,
de
mais là, ils peuvent. Oui, bah, ça serait un blâme pour eux de ne pas faire le 125e derby dans 15 jours. Donc, ils ne sont pas là. Donc, on a le retour de Koumbédi, par exemple, de Veretout. Et puis, surtout, on va le surveiller. Georges Mikotadze en pointe, qui est titulaire avec Malik Fofana.
Il va faire un jour de but, lui, non ?
Match très important pour lui.
Ouais, ça, exactement. Bon, je vais souffler très fort, là, parce que le brouillard est encore là.
Donc, souffle un peu. Bon, je préfère pour un moment, parce que l'anticyclone a l'air bien installé sur la région.
C'est magnifique. Tu vas pas quand même nous faire partir cette fumée sympathique, là.
Oh, bon, alors tu sais ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire, messieurs, on va aller à Marseille, parce que là à Marseille, il n'y a pas de fumée, il fait grand beau, c'est la Méditerranée,
Jeannot
est en Bermuda, en t-shirt avec ses lunettes de soleil, Nico Pelletier se balade dans les rues de Marseille, ils sont là et ils vont nous faire vibrer évidemment ce soir. Monsieur Essegay, bonjour.
Monsieur Cessieux, bonjour. Coach Courbis, bonjour.
Salut.
Bonjour. Et monsieur Pelletier, bonjour. Il est aussi avec ses lunettes de soleil sur le vieux port, dans le coin, là, par là.
Wow. Oh, j'ai acheté un parapluie quand même ce matin et puis je l'ai laissé dans le sac.
Ah bon?
Bah, il fait beau entre les gouttes et le soleil.
C'est quand même pas, c'est pas un temps. Non.
C'est pas ce qu'on nous avait annoncé.
Ouais, et c'est vrai qu'on a vu les images
du Var, qu'on nous avait annoncé.
Le département d'à côté, effectivement, qui est dans les inondations. Hier à Montpellier, c'était le déluge aussi. La pelouse, en revanche, n'a pas souffert à Marseille, Jeannot. Elle sera impeccable ce soir ou non ?
Écoute, apparemment, on nous annonce, une pelouse correcte. Donc, on verra ça tout à l'heure quand on sera autorisé à entrer dans le stade.
Ah oui. T'as pas encore le droit.
Attends, là, c'est un match de Ligue 1. Là, t'es pas sur un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde où tu peux rentrer quand tu veux parce que tout est en place et qu'on te laisse la possibilité de pénétrer dans le stade. Là, non, il y a une réglementation à respecter une fois que tout le monde sera en place et notamment les différents stadiers et chargés de sécurité.
Bon, il devrait quand même y avoir un peu de monde ce soir, non ? Parce qu'on parlait de guichets fermés pour ce match entre Lyon et Auxerre. Qu'en est-il à Marseille ?
Il n'y aura pas de supporters parisiens. Donc, du coup, on a commercialisé le parquage visiteur. Et tu sais que Florent Germain est toujours précis dans ses chiffres. On devrait se rapprocher des 66 046 du record de la saison dernière entre justement l'OM et le Paris Saint-Germain.
Ouais, ça m'étonne toujours qu'on arrive à battre des records dans un stade qui n'augmente pas en termes d'affluence. On n'a pas créé de places supplémentaires, mais
quand tu as un parkage, tu as des sièges sécurisés à côté qui ne sont pas commercialisés. D'accord. Et tu sais que le stade à Marseille aussi a la particularité d'avoir quelques places que tu peux difficilement commercialiser parce qu'elles ne te permettent pas d'avoir une bonne visibilité.
D'accord.
Donc voilà, c'est tout.
Donc t'as 49 000 abonnés. Comme ça, on les commercialise alors.
T'as 49 000 abonnés et 17 000 places en vente, dont le parkage visiteur. Voilà. C'est obligé que l'année dernière, tu n'avais pas de supporters parisiens, puisque c'est le cas depuis 2015. Il ne faut pas être trop, trop bon en maths non plus pour comprendre ce genre d'exercice.
Il y a des places où tu vois que la moitié du stade. Ils sont vendus à moitié prix et tu vois la moitié du match.
Tu vois la moitié du match et la moitié des buts. Mais donc Jeannot, je n'ai toujours pas compris. C'est-à-dire que les supporters parisiens n'étaient pas autorisés les années précédentes non plus.
Oui.
Et donc, on avait commercialisé
la saison dernière, tu étais à 66 046 sans supporters parisiens. Sans les supporters parisiens. Là, tu as 49 000 abonnés. Tu en as juste un tout petit peu plus. Et tu as donc 17 000 places qui sont en vente en comptabilisant la partie du parkage des visiteurs. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu vas. Enfin, je sais pas, 49 plus 17, pour moi, ça fait 66. Donc, tu vas pas être loin du record.
D'accord. Voilà. Et à 46 places. Et 0,46, c'est un supporter.
Il y a des moments où on a l'impression qu'il faut parler doucement.
La moitié tu sais les maths,
on a la moitié dans le stade.
C'était pas génial non plus, mais bon, ça reste assez basique.
Mieux que moi, a priori.
0,46.
Le 0,46.
S'il y a 0,47, le score il est battu.
Pas leur chiffre, j'y crois.
Les deux du Muppet Show, là, ils sont bien.
Bon, Jeannot, parle-nous foot un peu. Parle-nous Compog. Là, on veut les Compog, on veut savoir ce qui va se passer sur la pelouse ce soir.
Les compos, écoute, pour en avoir discuté avec certains confrères et notamment avec Flo Germain, tu sais qu'il y a déjà deux joueurs qui ne sont pas dans le groupe, Garcia et Merlin. Alors Garcia, lui, il a une gêne musculaire et Merlin reprend à peine. Donc après sa blessure, il est jugé trop juste. Donc après, tu as Lirola qui est OK, tu as Murillo qui est OK, tu as Brassier qui est OK. Donc ça veut dire que sur les côtés, tu as ces solutions-là pour trouver les latéraux qui ont d'ailleurs beaucoup travaillé sur le terrain, mais aussi en séance vidéo, puisque c'est ce que craignent les Marseillais, notamment les deux côtés avec Hakimi Dembélé et de l'autre côté avec Nuno Mendes et Barcola. Donc logiquement, Rulli dans les buts, Kondogbia avec Balerdi au niveau de la charnière, et donc Murillo à droite, Brassier ou Cornelius à gauche, ce qui pourrait être une solution. Rabiot avec Højbjerg, et ensuite Greenwood, Harit, Luis Enrique et Wai qui devrait être titularisé, lui qui a marqué son premier but avec l'OM dans le jeu contre son ancien club Montpellier. Pour ce qui est des Parisiens, bah, c'est toujours difficile de sortir une compo avec Luis Enrique, ouais. Parce que bon, il travaille pas beaucoup la mise en place.
Il y a un joueur qui est à son vrai poste, non ?
Pour ne pas avoir de fuite et de donner surtout pas d'indication à ces joueurs, surtout pour qu'il n'y ait pas non plus de fuite chez les journalistes. Donc normalement, ce pourrait être Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, ce qui veut dire que là, ça ne bougerait pas par rapport à la défense, notamment de cette semaine contre le PSV. Le retour de Vitinha, en principe, avec Zaïre Emery et João Neves, et devant Dembélé, Asensio et Barcola.
Donc, pas Lee, alors.
Plus que Lee. Bon, après, quand tu vois ce qu'a donné Lee dans un rôle de faux numéro 9, c'était quand même pas une vraie réussite contre les Néerlandais.
Un faux joueur.
Ouais, en plus,
c'est pas un faux neuf, c'est un faux joueur.
C'est pas vraiment un bon joueur, le pauvre garçon, alors qu'il peut apporter beaucoup plus sur un côté, ça, voire beaucoup plus au milieu du terrain.
Très bien. Un petit mot, Romain.
Oui, si tu veux, je change pas mon avis en ce qui concerne l'effectif de l'OM. Tant que l'OM n'a pas récupéré notamment les défenseurs et Merlin, qui est pour moi mon défenseur préféré, malheureusement, il est blessé. Le milieu, je trouve que c'est très bien. Le gardien, ça va. Les quatre offensifs, pas mal du tout. Avec, comment il s'appelle, Jeannot, celui côté gauche, flou.
Luis Enrique ?
Non, à la place de Luis Enrique. Là, tu nous as annoncé Luis Enrique.
Hein? Rowe, l'anglais.
Voilà, Rowe. Bon, ça je trouve.
Alors vous êtes bon en maths, mais en anglais c'est moyen quand même.
Je trouve.
Ah, moi j'ai toujours eu mon accent certifié sud-ouest. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Je trouve très intéressant, mais le secteur, et notamment les quatre défenseurs. Dans les quatre défenseurs que Balerdi puisse progresser, oui, ben ok, tant mieux. On va le constater encore une fois. Mais le meilleur des quatre pour moi, c'est Kondogbia. Et c'est pas son poste, le poste d'arrière central.
Oui, mais il est comme ça, Luis Enrique.
Pour moi, il dépanne. Non, mais là, on parle de Marseille.
Marseille, pardon.
Donc c'est pour ça que ce secteur-là, il m'inquiète un peu. Sinon, je pense qu'on va assister à un très beau match.
Et j'espère. En tout cas, ça fait 13 ans que l'OM n'a pas battu, 11 matchs de Ligue 1 au Vélodrome, n'a pas battu le Paris Saint-Germain. C'était le 27 novembre 2011, 3-0, avec des buts de Rémi, Amalfitano, Ayou. Enfin voilà, donc ça nous rajeunit pas. Y a la volonté, en tout cas chez les supporters, d'assister à une grande soirée. Pourquoi ? Parce que, comme l'a précisé notre confrère de la Provence, il n'y a plus les Galactiques à Paris. Et donc, on estime ici qu'à Marseille, que ce Paris Saint-Germain-là ne fait plus peur.
Eh bien, on va voir ce qu'en disent les supporters marseillais dans un instant avec Nico Pelletier. Merci, Jeannot. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
On rappelle donc match en intégralité ce soir sur RMC. Exceptionnelle soirée pour ce classique. Avant de retourner à Marseille, on va quand même aller voir ce qui se passe à Lyon, puisque le brouillard a l'air de s'être levé, mon cher Edouard.
Pas totalement. Mais on arrive quand même à voir qu'il y a toujours 0-0. Et clairement, coach, que s'est-il passé avec cette interruption ? Ça a cassé le rythme et du coup, ce match a...
Non, qu'est-ce que c'est dommage.
a du mal à vraiment reprendre. Alors les Lyonnais peut-être ont une occasion là sur un coup de pied arrêté, en l'occurrence un corner, ce ballon dans la surface de réparation dégagé. Je crois que c'est Diomandé qui va largement le dégager. Donc des
Diomandé Lyonnais, qui joue contre son ancien club.
Exactement, qui a été transféré dans les dernières heures du mercato à Auxerre. Donc ça fait partie des trois Lyonnais, hein. Il y a Ovochou et puis Gaëtan Perrin, l'attaquant. Donc les trois compères qui sont passés par le centre de formation, qui n'ont pas percé avec l'OL, mais qui sont donc actuellement en Bourgogne. Long ballon peut-être pour Saïd Benrahma, mais il n'y a pas qui est là pour se saisir. Non, c'est l'Algérien qui va réussir à avoir le ballon. On est le long de la ligne. Oh, finalement, il arrive à sortir et à centrer en retrait le ballon qui est mis en corner, une balle détournée par la défense, je crois que c'est Joubal, et cette balle, elle voyageait, elle était très aérienne, elle retombait pile sur...
Ah, on y a coupé le sifflet après lui avoir mis du brouillard dans les lunettes. On a donc...
c'est fou ce que ça fait le brouillard, hein, parfois.
Non, mais il a dû se prendre un truc sur la tête. Tu crois ?
Non, non, mais tu sais qu'il y a des soucis. Non, mais mis à part ça, il y a des soucis de liaison technique parfois avec le groupe Ama Stadium pour en avoir.
Ah, c'est avec Lyon, c'est régulier avec Lyon, d'accord.
Ah, ouais, ça nous arrive de temps en temps, effectivement, ouais. ce qui promet pour le 125e.
Peut-être que
permis,
quelqu'un veut bisuter Édouard G, sait-on jamais.
Non, non,
Edouard,
non, c'est fini. À son âge, on le bisute plus. Non. À son âge, on le bisute plus, Édouard G, c'est fini.
Je savais qu'à 15h le dimanche après-midi, ça pouvait être
je vous laisse, les gars. Je vous laisse. Mais n'oubliez pas de parler du derby de l'Occitanie, hein. Le derby de la peur.
Non, le vrai derby, c'est le Malaconi, ça, le reste.
Non, mais nous, en Occitanie, on en a un qui est terrible, là, celui-là.
C'est quoi votre derby?
Montpellier et Toulouse. Hein,
bon, ah, oui, ça existe, ça.
Ça existe. Oui, ça existe. Ouais. Parce qu'on dit plus Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mais on dit Occitanie.
Et le derby de la Côte d'Azur, ça t'intéresse pas, toi, par exemple?
Si, bien sûr. Bien évidemment, Monaco-Nice, attends.
Montpellier-Toulouse, c'est pas la même région.
Ouais, quoi, et puis hier, il y avait Lens Lille, tu vois. C'est bien, ils ont mis un bon week-end de derby, là. C'est, c'est sympa.
Non, mais quand tu mets les derbies comme ça dans le multiplex de 17h, c'est quand même étonnant.
À condition qu'il n'y ait pas de brouillard et des problèmes techniques. Ah, vous ça, à plus tard.
Ça, on verra. Pour l'instant, on croise les doigts. Tout à l'heure, Jeannot, on croise les doigts, puisque Edouard, pour l'instant, a pu récupérer son micro et sa ligne.
Ouais,
t'es là.
Ouais, je suis là. Bon, bah voilà, pour vous dire qu'il y a 0-0.
Ah, bah super. Si c'est pour nous dire ça, vous pouvez rester à la maison. Très bien, nous retournons à Marseille. Nous sommes maintenant avec Nico Pelletier, qui lui se balade dans les rues de Marseille. Il a mis son maillot du PSG, évidemment. Chaque fois qu'il va à Marseille, il fait la même chose, ce qui lui vaut parfois quelques petits soucis. Ça va, Nico? T'as pas été repéré encore?
Non, pas du tout. On n'a pas de maillot du PSG. On est sur le parvis du
Sporting Club de Bastia.
On a mangé corse ce midi avec Jeannot, à Marseille.
Oui, évidemment.
Et donc, on est sur ce parvis du Vélodrome à 6h du match. Il commence déjà à se remplir avec de nombreux supporters qui commencent à patienter devant le stade Vélodrome pour ce coup d'envoi. À 20h45, on commence déjà à chanter, à lancer quelques bombes agricoles. On le rappelle, il n'y aura pas de supporters parisiens. Et puis, tout à l'heure, on a rencontré Ben Gousse, qui est un peu l'image, le reflet de tous les supporters marseillais. Il m'a répondu un peu pareil que les autres supporters marseillais sur l'enjeu de ce classique face au PSG et l'ambition de l'OM ce soir. Écoutez-le.
Je le sens bien, j'espère que cette année ça va être la bonne. Ça fait tellement d'années qu'on attend une victoire au Vélodrome en championnat contre le Paris Saint-Germain. Avec l'effectif, le renouveau de ce qui se passe, l'engouement, de comment les attentes du match, les attentes des supporters, on veut impérativement une victoire et j'espère que ce soir ils vont me faire plaisir.
Voilà, très ambitieux. Pareil pour tous les supporters de l'OM rencontrés aujourd'hui. On pense que c'est la bonne année, comme l'a dit Jeannot tout à l'heure avec la fin des Galactiques au PSG. On pense que c'est la bonne année pour battre le PSG ici à Marseille, au stade Vélodrome. Donc voilà, 66 000 personnes ce soir. L'ambiance commence à monter. Je pense que dans une heure ou deux, l'ambiance sera très chaude sur le parvis du stade Vélodrome.
T'en as vécu des comme ça, Roland, hein? C'est des...
Oui, mais dans un stade qui n'avait rien à voir avec ce stade-là.
Ah oui, le stade où tu as attrapé des rhumes, c'est ça?
Bon, évidemment, tu sais, j'ai toujours mon côté moqueur. Quand il y a eu le jour de l'inauguration, je demandais quand c'est qu'il le termine. Tu vois, donc... Mais bon, c'est comme ça. Par contre, celui d'aujourd'hui, de stade,
beau, hein.
Entre
il est chouette, hein.
La beauté et aussi comme ça résonne, c'est extraordinaire.
C'est vrai qu'avant tout partait vers les airs, il n'y avait pas de tribune
l'enrhumeur.
Dans les deux virages. C'est l'heure du quintet, figurez-vous. Je ne sais pas où on est, mais on est avec Mathieu Zaccanini en tout cas. Et il est sur un hippodrome. Il est là. Salut Mathieu.
Salut Christophe. Jean-Christophe, salut Roland, salut à tous. On est sur l'hippodrome de Saint-Cloud aujourd'hui.
C'est Saint-Cloud, d'accord.
Et le Quintet Plus vient de se disputer à l'instant sur la distance des 2500 mètres. C'était une épreuve handicap réservée à des juments âgées de 3 ans et plus. Et la victoire est revenue très facilement à l'une des favorites, hein, le numéro 1 Katina, qui s'est imposé à 8,5 contre 1. Il y a une deuxième place qui a été obtenue. Ensuite, il y a encore une photographie. En tout cas, victoire. Voilà, photographie entre le numéro 5 et le numéro 9. J'attendais juste de savoir si elle avait été développée. C'est le numéro 5, Chelsea Lunignan, qui est certainement deuxième aux dépens du numéro 9, hein, qui est Illumine Précieuse. Quatrième place pour le numéro 12, hein, qui était la Diva d'Albin. Et enfin, c'est le numéro 3, Zayana, qui s'est classé cinquième. En tout cas, on assistait à une arrivée plutôt d'outsider. Il y avait beaucoup de possibilités. La favorite a déçu, hein, le numéro 14, Moonglad, qui n'a été que l'ombre d'elle-même pour son premier handicap. En tout cas, pas de souci pour ce numéro 1 qui s'impose aux dépens du numéro 9, finalement. Troisième place pour le numéro 5, quatrième pour le numéro 12 et cinquième le numéro 3. Je reviendrai donc à 16h pour vous donner l'arrivée, les rapports définitifs de cette compétition. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bon, il est 15h20. On va faire une première petite pause, Roland, et on reviendra. Oui. Parce que le brouillard est toujours un peu latent quand même sur, sur le Groupama Stadium. Mais bon, on a retrouvé Edouard G. Ça, c'est quand même l'essentiel. 0-0 pour l'instant. Et on revient dans une petite minute. On va rentrer un peu plus dans ce match. A tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Et Roland Courbis, évidemment, pour m'accompagner cet après-midi pour cette journée de Ligue 1. C'est la 8e, vous le savez, il y aura d'autres très beaux matchs à partir de 17h. Les derbies, puisqu'on est dans un week-end de derby. Il y a eu Lens-Lille et qui a eu la victoire de Lille hier soir, 2-0. Tout à l'heure, on suivra à 17h Nice-Monaco, Montpellier-Toulouse, ça ce sont les derbies. Il y aura aussi Strasbourg-Nantes, là c'est pas vraiment un derby. Et puis c'est tout. Et puis à 20h45, évidemment, Marseille-Paris-Saint-Germain, dont on vous tient informé évidemment toutes les heures dans l'intégrale foot. En attendant, nous sommes au Groupama Stadium où Lyon est opposé à Auxerre et pour l'instant les deux équipes sont à égalité 0-0. Roland, un petit commentaire sur ce que tu as dit depuis 23 minutes.
Évidemment, je regarde le match et les deux équipes, mais je regarde un peu plus Lyon qui est quand même favori, qui sort d'une défaite en Coupe d'Europe. Et je vois pas un Lyon extraordinaire pour le moment. Et c'est vrai que cette liste de 5 joueurs importants qui ne sont pas dans le 11 de départ, on va quand même assister à ce que sera les changements. C'est peut-être ça qui améliorera les choses, parce que pour le moment, c'est un Lyon très, très, très moyen. Je dirais même trop moyen.
Moyennas, les Lyonnais, nous dit Roland. Tu confirmes,
Edouard ? Tout à fait. En fait, il joue toujours sur le même rythme, mais un rythme encore pas forcément élevé. Et pour l'instant, dans cette partie, on a un seul tir cadré et encore pas vraiment dangereux. C'était une tête, je crois que c'était Saïd Benrahma qui a fait cette set sur ce centre de Sahel Koumbédi. Voilà, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Pas de rythme, un rythme cassé d'entrée avec la fumée des fumigènes, avec cet arrêt de 3-4 minutes. Et puis là, une nouvelle fois arrêté, puisque c'est Traoré qui est mal retombé au niveau de l'épaule. Il y a peut-être un déboîtement, mais en tout cas il est soigné. Les Auxerrois vont avoir un coup franc, c'est lointain, c'est une quarantaine de mètres du but de Lucas Perry. Pour l'instant les Auxerrois vont être à 10 contre 11, mais visiblement plus de peur que de mal pour l'attaquant Auxerrois. C'est Gaëtan Perrin qui va s'y coller sur ce coup franc. Oui, une possession largement lyonnaise, mais pour l'instant totalement inoffensive cette possession. Alors est-ce que ça va piquer du côté d'Auxerre sur ce coup franc de Gaëtan Perrin? Alors Gaëtan Perrin, voilà ce long ballon dans la surface de réparation de la tête piquée, c'était qui là-bas? C'était Florian Hayet, mais finalement c'est largement à côté avec Lucas Perry qui essaye de relancer très très vite, peut-être trop vite, mais quand même les Lyonnais vont avoir une touche. C'est un petit peu comme si on avait fait un 50-22 en matière de rugby. Ça a amené tout le jeu dans le camp auxerrois, simplement sur ce long dégagement de Lucas Perry. On va retrouver peut-être le petit rythme pour ces Lyonnais avec Tagliafico, avec Namenia Matic là qui a le ballon, qui est capitaine cet après-midi. On va repasser derrière par Doulé Kaleta Tsar avec cette défense à 5 côté auxerrois là qui vraiment anesthésie d'une certaine manière cette équipe lyonnaise. On n'arrive pas à trouver de la profondeur. Ça joue de façon latérale une nouvelle fois avec Matic. Il va peut-être trouver un petit ballon à l'entrée de la surface de réparation. Derrière Malik Fofana, le deuxième ballon dans la surface. Peut-être Mikotadze qui va pouvoir se retourner. Il arrive à se retourner, à reprendre le ballon, mais le ballon est détourné par la défense auxerroise qui va concéder une touche. 0 à 0, 26 minutes de jeu. On va dire que c'est plutôt 22 minutes effectifs après ce début de match où il a dû être arrêté avec les histoires de fumigène. 0-0 donc, 26 minutes de jeu.
15h26 sur RMC, 0-0. Les Lyonnais qui sont un tout petit peu plus entreprenants. Non, Roland, t'es pas convaincu?
Oh non, pas du tout. On va peut-être mettre un peu 2-3 fumigènes.
Ouais, ça nous. Ouais, en plus, il va y avoir au moins un quart d'heure de temps additionnel avec cette histoire-là.
Ouais, au moins 4 minutes, facile. Enfin, voire
oui,
5,
facile. Une dizaine. Ouais. Bon, j'espère que le match sera terminé au moment du coup d'envoi de Marseille PSG. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Évidemment. Bon, en tout cas, on est bien parti pour une bonne sieste pour l'instant. Hein. Heureusement qu'Edouard est là pour nous tenir éveillés parce que nous, on aurait tendance à piquer un peu du nez. Mais bon, une tendance.
Ça sera fini pour ton 4 heures, hein, t'inquiète.
Hein? Pour mon 4 heures.
Pour ton 4 heures.
Pour mon 4 heures. Alors pour mon 4 heures, il y aura de belles choses puisque vous le savez, tout à l'heure aura lieu la finale du tournoi de tennis de table de Montpellier et que la bonne nouvelle, c'est que Félix Lebrun s'est qualifié pour la finale. Il a battu tout à l'heure un Chinois, un jeune Chinois qui paraît-il est l'avenir du tennis de table. Mais l'avenir et le présent, c'est Félix Lebrun donc qualifié. Et puis on suivra également dans quelques instants la finale du tournoi de balle de tennis avec un jeune Français dont on commence à parler pas mal. C'est Giovanni Mpeci Péricard qui va donc être en finale contre Ben Shelton. On suivra ce match avec Eric.
Le nom, s'il te plaît.
Giovanni Mpeci Péricard. Pratique, ça, quand tu es à l'école.
Non.
Ouais,
c'est un nom ou une phrase?
Tu l'aurais pas appelé comme ça, toi?
Tu vois, ça fait drôle. Je pensais que tu t'étais trompé.
Non. Je croyais que c'était un double qui avait les quatre noms, en fait.
Ben oui.
Eh ben non. Édouard G. Lui, c'est plus ça. Édouard G. Ça pète, hein.
Ben voilà.
Ah, c'est efficace, voilà, ça.
Ouais, c'est efficace, ouais. Ça rapporte pas beaucoup. Si, avec le Y, ça peut rapporter beaucoup.
W et un Y, quand même, normalement, au Scrabble, c'est pas mal. Hein.
Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, 28 minutes de jeu, 0 à 0. Et. Un nouvel arrêt de jeu. Cette fois-ci, c'est Doulié Kaletatsar qui a pris un coup de coude d'un Auxerrois dans un duel aérien, si bien que, ben voilà, on a une nouvelle interruption, mais il va falloir du côté des. Alors qu'au départ, il y avait une faute dans un autre endroit d'un Lyonnais sur un Auxerrois. Du coup, on est dans le camp Auxerrois, le camp Lyonnais, pour un coup franc Auxerrois avec Gaëtan Perrin qui va s'y coller, à moins qu'il laisse à Akpa ou Mensah derrière pour ce coup franc qui est presque sur la ligne médiane. Hein, donc, dans un premier temps, n'est pas très inquiétant pour les Lyonnais. Mais attention, peut-être au deuxième ballon, parce que les Lyonnais sont totalement chloroformés d'une certaine manière par les Auxerrois qui laissent venir. En gros, la possession, c'est 75-25. 75 pour les Lyonnais, 25 pour les Bourguignons. Et puis pour l'instant, ben, ça n'a rien donné du côté des Lyonnais. Ils récupèrent quand même le ballon par Malik Fofana dans un premier temps. Et finalement, il va y avoir une touche pour les Lyonnais qui restent dans leur propre camp. 0 à 0, la petite demi-heure de jeu. On est prêt de dormir. Heureusement qu'il y a 56 000 personnes et que ça résonne, ça fait du bruit dans ce groupe Amas Stadium. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un tir cadré, une tête. Elle était pour les Lyonnais. Pour le reste, rien. Race.
Okay. Rien à signaler. Oui. Voilà. À tout à l'heure, Edouard, on va revenir vers toi dans quelques instants. On va aller faire un petit tour à Montpellier, on l'a vécu tout à l'heure. La qualification donc de Félix Lebrun. On n'arrête plus d'en parler de ses frères Lebrun. On a passé tout l'été, évidemment, avec les Jeux Olympiques. Ils nous ont régalé, Roland. Et puis la rentrée, là aussi, se passe un peu dans l'euphorie. La semaine dernière, les championnats d'Europe. Avec,
c'est marrant aussi que le plus jeune a finalement
réussi à battre l'aîné. L'aîné qui se ressentait peut-être de la semaine dernière, un champion d'Europe en simple aussi, et champion d'Europe en double avec son frère. Mais effectivement, il a battu Alexis hier. L'entraîneur d'ailleurs ne voulait pas voir ce match. Aujourd'hui, il était aux côtés de Félix pour assister donc à un nouveau triomphe du petit jeune qui est donc en finale. Léna qui a donc battu un Chinois, et c'est pas tous les jours qu'on bat des Chinois en ping-pong quand même. Hein.
Ouais.
Ah non, ça n'arrive pas très souvent. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le week-end dernier, quand Félix et Alexis sont champions d'Europe en double et Alexis en simple, à la fin, Nathanaël Molin, on lui pose cette question là.
Qui manque complètement. Bon, de toute façon, il était hors jeu sur une longue relance à la main de Lucas Perry qui était arrivé sur la ligne médiane. Mikotadze s'était saisi du ballon, il s'était déporté côté droit. Ensuite, il a centré pour recentrer les débats pour Saïd Benrahma. En tout cas, l'arbitre assistant de Jérémy Stinat a signalé le hors-jeu. En tout cas, Saïd Benrahma, là, il n'a pas fait le bon geste dans tous les cas de figure. Tiens, on s'est réveillé. Désolé, Léna.
Tu coupes Léna comme ça, en plein vol. La peau, elle est là.
Surtout sur un match insipide comme
voilà,
ça. Désolé.
Elle essaie de nous expliquer un truc intelligent, tu vois. Et puis, boum, coupé en plein vol. Léna, tu nous parlais donc de l'entraîneur des frères Lebrun.
Ouais, je disais que la semaine dernière, quand on lui a demandé ce que ça faisait pour lui d'avoir ses joueurs champions d'Europe, il disait bah, pas grand chose parce que moi, mon objectif en tant qu'entraîneur de Félix Alexis, c'est de battre les Chinois. C'est mon objectif avec ces deux garçons-là. Ils ont déjà réussi tous les deux à battre une fois de temps en temps des Chinois. Mais là, je sais à quel point ça a dû être très, très important pour Nathanaël Molin, le coach, de voir Félix battre le numéro 2 mondial, Lin Chindong, qui était sur 19 victoires de suite sur le circuit international. Donc, c'est clairement une énorme performance de Félix.
Il n'a pas vu le jour en plus. Ça, il n'a pas,
il a pas vu le jour. Non, Félix gagne 4-7-0. Alors oui, les deux premiers sets, il a eu du mal à finir. Il a eu des balles de set. Le premier set, il a fallu aller jusqu'à la 10e balle de set pour que Félix remporte cette manche-là. Mais derrière, il a clairement déroulé. 6000 personnes dans la salle qui poussaient pour Félix Lebrun. Et puis bah, on a vu son niveau de jeu juste spectaculaire. Et donc le voilà en finale de ce tournoi, un WTT Champions. Et c'est la première fois qu'un tricolore va en finale.
C'est quoi, si tu veux comparer ça au tournoi de Nice par exemple, c'est pas un grand chelem, mais c'est un Master 1000, ça n'est l'équivalent.
Ouais, c'est ça, c'est équivalent Masters 1000, clairement dans le tennis, si on compare avec le tennis. Donc c'est clairement un des plus gros tournois, c'est un des plus gros tournois sur le circuit WTT. Donc c'est une performance clairement majuscule de la part de Félix. On le rappelle, alors on parle beaucoup de son âge, mais il a 18 ans seulement. Et là, le voilà en finale. Il a battu hier son frère, là il bat le numéro 2 mondial, et tout à l'heure il aura un japonais qui est 8e mondial. Félix est 7e, donc là il va jouer un joueur un petit peu moins bien classé que lui. Et Félix, au terme de quand on parle des confrontations, et ben, l'a déjà battu 3 fois ce joueur japonais, et lui, le japonais, n'a jamais réussi à battre Félix sur le circuit international. Alors bon, il y a un bel avantage pour Félix tout à l'heure. Il y a ce public qu'il aime énormément, ça il nous le répète à chaque fois, le public est là, ça le pousse, il aime ça. Donc tout à l'heure, ça peut être une très très belle finale. Ce sera aux alentours de 17h s'il n'y a pas de retard, avec la finale femme qui sera juste avant. Mais on a hâte de vivre ça, parce que ça pourrait être le plus beau tournoi que Félix Lebrun pourrait remporter dans sa jeune carrière.
Eh bien, on va pousser derrière Félix. Donc 17h a priori, aux alentours des 17h pour cette finale de ce tournoi WTT Champions de Montpellier, donc entre Lebrun et Arimoto Tomokazu, de son prénom. Merci Léna, à tout à l'heure. Nous retournons à Lyon, parce que t'as hésité quand même, hein. T'as hésité à la couper une deuxième fois quand même, hein.
Exactement. Mais l'action cette fois-ci, 0-0, mais les Lyonnais étaient tout près d'ouvrir le score sur un modèle d'action solitaire et surtout d'accélération de Malik Fofana côté gauche, et il s'est recentré et son tir est simplement, attention, avec dans la surface de réparation. Non, finalement, ce tir de Florian Hayer qui va passer au-dessus pour Auxerre. Vous le voyez, ça s'anime un peu. J'ai même pas le temps de vous raconter cette action avec Malik Fofana, le Belge, là, qui finalement a trouvé la transversale. C'était à la 32e minute, la transversale de Donovan Léon. Donc, on était tout près de l'ouverture du score pour des Lyonnais qui, enfin, coach Christophe, ben, hausse un petit peu le rythme à l'image de cette transversale de la 32e minute.
Roland, ouais, allez, un peu mieux. Et il reste encore 10 minutes pour atteindre
au moins 20.
Ouais, plus les arrêts. Donc on peut penser à une fin de première mi-temps assez bonne des Lyonnais.
Ouais,
je vois comme ça. Bon. Pour le moment, c'est quand même légèrement mieux, donc ça ne peut
mieux
s'améliorer
quand même, hein.
Là, mais le rythme est quand même un petit peu retrouvé là.
un petit peu retrouvé. Il faut dire que voilà, les Lyonnais ont une équipe vraiment remaniée de façon considérable, avec Koumbédi, Dalé Caleta-Tsar, Jordan Veretout, Miko Tadze, Malik Fofana, qui tous ces jours-là n'étaient pas titulaires jeudi. Et puis c'était ce match jeudi soir. Attention, le centre de Malik Fofana mal dégagé, ici finalement bien dégagé par Ovouchou et par les Bourguignons, avec c'était une action totalement ex-lyonnais, avec Gaëtan Perrin et le milieu de terrain Ovouchou, et tout cela va se terminer par une touche pour les Bourguignons sur la ligne médiane. 0 à 0, 36 minutes de jeu, allez, plus 3-4 minutes de temps additionnel au minimum, donc il y a un petit quart d'heure encore à jouer pour essayer d'ouvrir le score pour l'une des deux équipes, pour l'instant 0-0.
Très bien, allez, on revient dans un instant, il est 15h36, Roland, on va se régaler, je suis sûr qu'il va se passer des choses dans ce match, et puis dans ce beau dimanche de foot, hein. On vous rappelle, à 17h Nice-Monaco, Strasbourg-Nantes et Montpellier-Toulouse, et à 20h45 Marseille-Paris-Saint-Germain. On retrouvera l'un de nos envoyés spéciaux tout à l'heure dans les rues de Marseille, ou plus exactement dans les rues de Paris, pour nous parler de ce match. Il est 15h36 et on revient dans un instant.
RMC Intégral Foot,
Christophe Cessieux.
15h38 sur RMC, nous sommes de retour avec Roland Courbis et avec Edouard G. Voilà, on fait un petit trio cet après-midi pour ce match entre Lyon et Auxerre. Pour l'instant, toujours 0-0. On approche de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Il y aura pas mal d'arrêts de jeu, car il y a eu tout à l'heure une nappe de brouillard consécutive à des fumigènes qui ont été craqués. Et pour l'instant, les Lyonnais n'arrivent toujours pas à trouver la mire, mon cher Edouard, même s'ils ont eu quelques occasions.
Ils ont eu un tir cadré, 0 à 0 donc, et une transversale qui pour l'instant a renvoyé la grosse occasion de Malik Fofana à la 32e minute. 0 à 0, 5 minutes, plus allez, au moins peut-être autant en temps additionnel, une petite dizaine de minutes. Il va falloir du côté des Lyonnais clairement accélérer. Alors ils ont accéléré une ou deux fois, ça nous a amené ces actions, notamment de Malik Fofana, une autre de Saïd Benrahma, même si elle était moins prononcée. Mais il va vraiment falloir sortir de cet endormissement voulu, en tout cas cherché, peut-être bien trouvé par les Auxerrois, qui vont pas trop presser, qui les attendent. Et pour l'instant, les Lyonnais n'arrivent pas trop à avoir de la vitesse. Peut-être sur cette longue balle de Caleta-Tsar là pour Malik Fofana, qui arrive à prendre le dessus, il va centrer, mais il est en mauvaise position, donc il est obligé de balancer un ballon un petit peu, qui est carrément sorti des limites, ce centre un petit peu le désespérado, parce que ce ballon allait sortir, du coup en voulant le sauver, son tir du pied gauche a été vraiment totalement approximatif, à tel point que ce ballon est sorti. Tiens, pour arrêter un petit peu le jeu, il y a un joueur qui est à terre, je crois que c'est Miko Tadze, qui a pris un coup de Akpa, qui cherchait à dégager le ballon. Donc un nouvel arrêt de jeu dans cette première mi-temps très très pauvre, avec un seul frisson, cette barre, cette transversale trouvée par Malik Fofana à la 32e minute. Roland, c'est la première fois que Nema Matic et Tanner Tessman, l'Américain, sont associés, et les deux jouent un petit peu sur le même registre, un peu lent. Est-ce que ça peut expliquer justement ce manque de vitesse qu'il y a au milieu de terrain, ces deux joueurs dont la vitesse n'est pas forcément le point fort?
Roland, ton avis?
Ouais, mais je suis d'accord avec lui. Je suis en train de regarder un petit peu le temps qui manque. Là, je crois qu'on est parti encore pour une dizaine de minutes.
Hein. Ah ouais, oui, facile. Ce match est interrompu à peu près toutes les 3 minutes.
Ouais, non, mais c'est sincèrement, on plaisante, c'est fatigant. Hein.
Ouais. Bon, ok. Bon, tiens, on va aller faire un tour au tennis. Ça vous dit
0-0. Hein? Allez, vas-y.
Ouais, puisque le match est interrompu, on va aller retrouver Eric Salio, qui est en Suisse, à Bâle, pour le tournoi de Bâle, avec un Français. Et oui, un Français en finale. Un Français au nom à rallonge. Hein. Tu as retenu le nom, Roland, tout à l'heure, que je t'ai donné?
Non, non. C'est pas un nom, c'est une phrase.
Giovanni Mpetchi Péricard. C'est de lui dont il s'agit. Jeune espoir du tennis français. Une frappe de mule, notamment au service, Eric. Ouais. Il est impressionnant. Et il est en finale donc de ce tournoi de Bâle, cher à Roger Federer. Il va être opposé dans un instant à un Américain nommé Ben Shelton. Alors parle-nous de ce Giovanni. Je crois que Sarah nous en a déjà parlé ce matin dans les grandes gueules du sport. Elle est très, très enthousiaste hein, à l'idée de voir ce garçon grimper une à une les marches.
Elle a raison. Alors je ne suis pas à Bâle, hein, vous l'avez compris. On est à Bercy d'ailleurs. Corentin Moutet sur le court pour le dernier tour des qualifs.
Potentiel pénalty.
Ah.
Bizarre sur potentiel. L'action. Potentiel, oui, sur l'action, je vous disais, il y avait un joueur à terre.
J'ai rien vu, pourtant il n'y a pas de fumigène.
Alors, est-ce qu'il y a, il y a peut-être un pénalty pour Lyon sur cette action qui paraissait anodine. Je vous disais sur ce centre à la Desesperado là, de Malik Fofana, le ballon qui était sorti. Y a-t-il une faute quelque part dans cette action? On va voir ça, mais en tout cas...
Un coup de pied aux fesses, là, il y a un Auxerrois qui donne un coup de pied aux fesses terrible.
Ouais.
Un joueur lyonnais. Ah, il le touche derrière la cuisse, plus exactement.
Ouais, alors
c'est violent. Hein.
Ouais, c'est assez violent. C'est pour ça qu'il est resté. C'est pour ça qu'on s'est quitté sur cet arrêt de jeu avec le fait de
il y a tellement de surprises avec la VAR. Il peut y avoir un pénalty. Hein.
Ouais, ouais, le prendre les. Là, c'est assez violent. Assez violent. Ouais. Parce qu'en fait, c'est Mensah qui veut dégager le ballon, sauf que entre le ballon et son pied est venu Mikotadze. Donc du coup, ça nous a fait un.
Alors, péno ou pas péno?
Ah, je pense que oui.
Pénalty.
Et ben voilà.
Alors là, faut m'expliquer, mais bon, il y a pénalty pour Lyon. Là, je ne sais pas si vous avez de meilleurs yeux ou de meilleures
Non, je te dis, c'est les surprises de la VAR. Le gars, c'est vrai qu'il rate son dégagement, puisque.
Il touche violemment quand même le joueur de Rouen.
Hein. Bon. J'ai l'impression que la balle était sortie avant.
Est-ce qu'il y avait danger de but, tu vois, chez eux bon. Sincèrement,
c'est incompréhensible.
Là, j'y comprends plus rien.
Déjà, cette semaine en Ligue des Champions, j'ai rien compris. Là, pour Lille contre Atlético. Mais là, cette VAR, il faudrait la brûler, quoi. Il faudrait tout brûler, quoi. C'est une catastrophe.
Là, s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer pourquoi il y a pénalty. Mais bon, en tout cas, il y a pénalty pour Lyon. Ça ne veut pas dire qu'il va être inscrit, bien évidemment. Mais en tout cas, bien évidemment, Christophe Pélissier et tout le staff bourguignon, là, eh bien, ils sont.
C'est Mikotadze qui tire.
J'ai l'impression que c'est lui qui va prendre le ballon. On se souvient qu'il a manqué un pénalty à Rennes, qu'il n'a encore pas marqué de but avec l'OL cette année, qu'il cherche ce déclic. Alors il y a discussion autour de lui, c'est peut-être preuve qu'on n'a pas forcément confiance. Il y a Saïd Benrahma qui est là, on voit aussi Niakate qui est là, non c'est bien Georges Mikotadze, qui va peut-être enfin ouvrir son compteur but à la 9e journée de Ligue 1, plus les 3 matchs d'Europa League. Ça fait 12 matchs et carton rouge pour un membre du staff. Ça commence à s'énerver là. Alors est-ce que c'est Christophe Pélissier ou un autre membre du staff qui a hérité d'un carton rouge? Donc on récapitule, on est à la 45e, on est rentré dans le temps XXL qui n'a pas été encore indiqué de temps additionnel. L'occasion dans cette très très pauvre première période pour l'OL et Georges Mikotadze d'ouvrir le score. Messieurs, des PPL, des pénaltys pour Lyon, j'en ai vu. Mais celui-là, il est un peu tombé.
C'est pas un coup d'olas, là. Il n'y est pour rien, là.
Ah non, il est pour rien. Alors, le pénalty ne va pas encore être tiré.
Ah oui, non, mais là.
Non, mais ouais. Parce que je crois qu'ils ne veulent pas que tu ailles faire ta sieste. C'est Christophe Pélissier qui est en train de discuter avec l'arbitre. Et je crois que c'est Christophe Pélissier qui est exclu et ça continue. C'est assez bizarre.
Il n'est pas content, Pélissier.
Non, il est content. Je crois qu'il y a de quoi. Hein, mm-hmm. À moins que vous ayez une explication pour nous.
Ah non, on n'a pas d'explication.
Voilà.
Donc il va y avoir un penalty, un de ces quatre. Mais il ne pourrait pas faire la mi-temps et le jouer, faire jouer le penalty juste après la reprise, quoi. Stop.
Non, alors est-ce qu'il y a VAR de la VAR pour revenir sur ça? C'est assez bizarre ce qui se passe. En tout cas, ça fait 2 minutes 30 que le pénalty a été sifflé.
C'est l'entraîneur adjoint qui a pris un rouge, a priori.
Pour Mikotadze, qui n'est pas tellement en confiance en ce moment, cet arrêt-là, pour tirer le pénalty, j'espère pour lui qu'il le marque, parce qu'il manquerait plus qu'il rate le pénalty à Lyon, dans un Lyon qui reçoit.
J'ai rarement vu ça. Là, qu'est-ce qui se passe en fait?
Je sais pas, ça discute, ils sont bien là sur la pelouse. Ouais.
Donc c'est l'un des entraîneurs. 18 minutes d'arrêt de jeu, oui. bah écoute.
Là, je sais pas, il est en train d'expliquer, de noter les trucs là, sur son petit. Alors, son votre nom, votre date de naissance, votre taille, s'il vous plaît, le prénom, le nom de famille, le nom de jeune fille de votre mère, je sais pas. Il est en train de lui demander plein de trucs.
C'est Jean-Marie Stéphanopoli.
Ah oui, bah, s'il n'arrive pas à écrire, il n'a pas le.
C'est pas comme j'ai, ça.
C'est comme Giovanni Mpetti Perica. On voulait en parler, ça fait un quart d'heure, je te signale, Edouard, qu'on a parlé de tennis. Et toi, tu nous interromps.
Eric, tu m'en veux pas, j'espère.
Il y en a des phrases.
Il y en a des phrases.
Ouais, mais là, il est en train de remplir un petit papier. C'est super, c'est très moderne.
Ça fait
moderne,
4 minutes
quoi.
Que le pénalty est accordé. Hein, donc,
et Pellissier voilà. Qui continue d'aller interpeller l'arbitre pour lui demander des trucs.
Voilà.
Donc je note. Qu'est-ce que j'ai noté là sur mon petit carnet?
Donc tu fais ce que tu veux.
Ça ressemble à un carnet de vaccination.
Il paraît qu'il a changé 3 fois de réflexion de l'endroit où il allait tirer le pénalty.
Ouais, donc je sais pas. Il y a.
Il alors, a dit on... je tire à droite, alors finalement à gauche.
Il a demandé qu'il a pris un carton jaune. La faute, c'est au départ, c'est Mensa. Là, donc Jean-Marie Stéphanopoli, donc qui va être exclu, mais pour l'instant, il est toujours sur la pelouse. Hein. Ça discute encore avec Christophe Pélissier. Est-ce que Christophe Pélissier demande la VAR de la VAR? Je ne sais pas. En tout cas. Là, je pense que ça peut faire parler ce penalty. Alors, il n'est pas marqué encore, donc voilà. Il y en a qui garde son calme, c'est Pierre Sage.
je serais curieux de voir le nombre de minutes de temps. Parce que, en fait, le chrono tourne toujours. On est déjà à 3 minutes 30 au-delà du temps réglementaire.
Voilà,
et on n'a pas eu encore le nombre de minutes.
Allez, 12 là.
Ah ouais, facile. Ouais, je pense 15 mois.
L'année dernière, il y avait eu un Lyon-Brest où Lyon avait gagné au bout du temps additionnel. Mais 90 plus 16.
On est obligé de le mettre le temps additionnel. Après la première mi-temps ou on peut attendre les demi-temps?
Je sais pas, on peut inventer une nouvelle règle si tu veux.
Dans le chaos ambiant, on n'a pas eu le temps additionnel. Non, alors, non. j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'y mettre là au niveau du pénalty de Donovan Léon et dans son but. Jérémy Stinat est en train de le placer sur sa ligne. Georges Mikotadze est en face. On rappelle qu'il n'a encore pas marqué pour Lyon, qu'il a manqué un pénalty.
Franchement, si les dieux du foot sont là, le gardien s'est rond à l'arrêt, hein, parce que voilà, c'est un scandale ce pénalty.
Alors on va voir ça. On va voir. Nous en sommes à la 45e poteau, plus X. Ce pénalty pour Georges Mikotadze. Arrêté, non, plein axe. Il était sur la trajectoire de Donovan Léon. Et donc les Lyonnais qui vont marquer le premier but. Un but non pas bizarre, parce que finalement il est tiré, il est marqué. Mais c'est le pénalty qui est bizarre, alors que Jérémy Stinat a la main sur l'oreille. Est-ce qu'on va revenir sur ce pénalty? Non, pour l'instant il est bien validé. Donc 1-0. Et maintenant la prochaine info que je vais te donner à combien? 15 minutes de temps additionnel.
Ouais, c'est ça, un quart d'heure de temps additionnel. Ouais, ouais. Voilà.
On en a déjà mangé 5. Hein. Voilà.
Ah, d'accord. Donc ça fait 10 minutes en fait de temps additionnel.
Ouais, voilà.
D'accord.
Donc, alors, Arthur
Perrault qui vient d'arriver dans le studio me dit, donne une idée concernant les petits papiers qu'on a vus.
Christophe, il y a un coéquipier qui est de 3 mètres à l'intérieur des 16 mètres. Bientôt, il arrive avant Mikotadze au point de pénalty.
Un joueur de Lyon?
Tu regarderas ça.
Ah oui, j'ai pas vu, moi je regarde pas.
Il n'est pas retiré, je comprends plus.
Ouais, bah écoute, l'arbitre, il en a marre, il va pas faire une heure de temps additionnel, quoi. Est-ce que les Auxerrois n'ont pas porté réclamation directement? C'est ça que l'arbitre a peut-être noté tout à l'heure. Hein, c'est possible, parce qu'autrement, je crois, Arthur, c'est le lendemain, c'est ça, normalement, dans une procédure, quand on n'est pas d'accord avec une décision arbitrale.
Les comptes rendus des délégués arrivent à la Ligue le lundi, généralement, et c'est seulement là que les clubs font des procédures d'appel. Après des cartons rouges, cartons jaunes injustifiés.
Mais elles ont le droit de le faire avant ?
Je pense qu'ils ont le droit de le faire sur le moment et donc le faire directement auprès de l'arbitre. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait Baptiste Malherbe, le président d'Auxerre, qui était présent en bord terrain à ce moment-là.
Mais ça ne donne jamais rien, de toute façon, ces réclamations.
Ah, bah des fois, tu as des cartons jaunes qui sont annulés, des cartons rouges qui sont annulés.
Là, sur un but, sur un pénalty.
Ah, bah je pense qu'ils ont fait pour les deux, à mon avis. Pour le carton qui a été donné et aussi pour le pénalty, du coup.
D'accord. Ok, bon, bah on est parti pour un quart d'heure. Donc,
toujours avoir un Arthur Perrault.
Ah, bah c'est pratique, un petit Arthur Perrault. Bien formé et tout, il est magnifique.
Quand ils vont le refaire voir, le pénalty, regarde un petit peu.
Je vais le
coéquipier de Mikotadze, où c'est qu'il est.
Mais sortir de ma siège juste pour le pénalty.
Il arrive avant Mikotadze.
Ok. 15h50.
1-0 donc. Hein.
Oui, 1-0.
Il reste 9 minutes.
Il reste 9 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps qui va se terminer vers 17h. A tout de suite. Eric Salio, donc parce que depuis le temps, le match a commencé.
Non, mais c'est le foot d'Amal. Hein.
Ah, le match de l'Atletico
l'autre jour.
Mais je comprends que les gens ne regardent plus les matchs comme avant. Hein. C'est incompréhensible dans le football.
Oh, ouais. Ouais, heureusement qu'on a le tennis.
Oui, heureusement qu'on a le tennis. Puis on va peut-être, on va peut-être avoir un Français qui va gagner un gros tournoi, puisque Valls, c'est un ATP 500, Christophe, tu n'es pas sans l'ignorer.
Bah oui.
Et pour te dire la qualité de ce tournoi, si, quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce match sera donc hors du top 20, puisque Shelton est 23e et Petchi il est 50e. Donc, c'est plus arrivé depuis Jim Courier, qui avait gagné alors qu'il était 35e mondial, c'est dans les 90.
Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous à l'exhibition la semaine dernière, toutes les stars. C'est ça, ils n'étaient pas vraiment.
Mais non, parce que ce tournoi, c'était la chasse gardée de Roger Federer.
Ah,
il l'a gagné 10 fois. Donc c'était impossible de gagner ce tournoi quasiment. Il y avait beaucoup de stars parce qu'ils ont beaucoup d'argent à balle. Donc ils attiraient les meilleurs joueurs. C'est pour ça que les finales, c'était quasiment des finales de Grand Chelem. Là, c'est une finale entre deux joueurs hors du top 20. Mais on s'en fiche parce que si Giovanni Empeti remporte le titre, ça va faire du bruit, hein, surtout à quelques heures du coup d'envoi de Bercy, parce qu'il va arriver avec une étiquette énorme. On rappelle que c'est un garçon qui a vraiment explosé au printemps avec un titre à Lyon sur terre battue, puis surtout son parcours à Wimbledon, hein, on en avait parlé, 8e de finale à son âge, il mesure plus de 2 mètres et surtout il a un service fracassant. Il sert à 240, Christophe. Je ne sais pas si tu te rends compte.
240.
Mais oui, il sert à 240. Wow.
Comme un ouragan.
Donc, il est unbreakable depuis le début de la semaine. Mais attention, en face, Ben Shelton est lui aussi unbreakable. Et là, justement, y en a une balle de break à venir pour le Français, pour le Lyonnais. On est en plein dans Lyon avec Edouard G. Donc, puisqu'il est originaire de Lyon, Giovanni Empeti, il a une balle de break donc, pour faire 2-1 dans cette finale qui se déroule donc dans le temple de Bâle. Même si Roger Federer était plutôt en front. Voilà, break pour Giovanni Empeti Perica. Petit événement, Shelton n'avait jamais été breaké depuis le début de la semaine. Donc gros avantage pour le Lyonnais. 2-1 dans cette finale de Bâle.
Eh bien, ça débute bien donc à Bâle pour Giovanni Empeti Perica. A tout de suite, Eric. Il est 15h54. Il y a eu une belle occasion pour les Lyonnais, là, Edouard. Hein.
Oui, sur une balle manquée au niveau du dégagement. Il y avait Mikotadze qui était dans le coin, mais finalement, Donovan Léon a taclé ce ballon. Il fallait vraiment qu'il ait le ballon parce que c'était sur la ligne des 5m50. Il fallait pas qu'il se loupe, il fallait que le geste soit précis. Parce que s'il manquait le ballon, ça pouvait aller au fond. Et s'il avait plutôt la cheville de l'attaquant lyonnais que le ballon, ça faisait pénalty. Donc ça suffit à ce niveau-là. Il reste 6 minutes puisque nous en sommes à 45 plus 9. Et qu'il y a 45 plus 15 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps.
Tu sais que le Arthur Perrault est efficace. On a des explications sur ce qui s'est passé tout à l'heure entre l'arbitre et les
officiels auxerrois. On n'était pas loin de ce qu'on a dit. Ça veut dire que l'AG Auxerre, avec donc directement son président Baptiste Malherbe qui est descendu sur le bord du terrain, a porté réserve. Sur la situation de but et de pénalty, parce que selon le club, ce n'est pas un cas de VAR, c'est une sortie de but sifflée avant. Donc voilà ce que l'AG Auxerre a contesté auprès de l'arbitre. Le fait qu'il y ait une sortie de but qui était sifflée avant et qu'on n'est pas dans un cas de VAR dans cette situation.
Très bien.
Oui, parce que c'est ce que je disais en direct. En fait, moi, l'impression, c'est que l'arbitre, en fait, assistant, lève le drapeau. Alors, est-ce qu'il signale la faute ? Ou pour moi, dans un premier temps, c'est pour ça que je vous avais laissé l'antenne, souvenez-vous, pour moi, la balle était sortie du champ du terrain avant que la faute soit sifflée et soit faite par Mensah sur Mikotadze. Bizarre.
Ok, 15h55, il reste encore 5 minutes dans cette première mi-temps. On revient dans un instant, on finit.
15 minutes, quand même.
Non, on reste. Finalement, on reste. On reste, il ne reste plus que 4 minutes de temps additionnel sur le quart d'heure, quand même. Laurent Seigre, il est en train de s'endormir là. Il est là pour le flash de 16h. Il arrive un peu à l'avance. Et là, il est vraiment arrivé très en avance. Edouard, les dernières minutes, donc les 4 dernières minutes, à moins qu'il y en ait quelques-unes de plus, on sait
jamais. Non, allez, on va essayer de finir sur les 4 dernières. Donc 1-0 avec ce but bizarre, baroque, de le pénalty sifflé à la 44e minute, validé, alors pas validé, mais indiqué par la VAR. Les Auxerrois qui sont sont un petit peu excités. Attention avec Perrin dans la surface de réparation, il arrive à récupérer le ballon dans un premier temps, mais après il le perd. Les Lyonnais qui vont peut-être pouvoir se sauver sur le côté avec Malik Fofana qui va passer la ligne médiane. Il a finalement un Auxerrois qui vient sur lui, qui va commettre une faute. Est-ce que Jérémy Stinat va lui mettre un avertissement, parce que là il y a les Auxerrois. Jubal a pris un carton jaune il y a peu. On sent beaucoup d'excitation. Il va falloir que Christophe Pélissier dans le vestiaire pendant cette mi-temps, dans 3 minutes maintenant, messieurs, il va falloir qu'il calme ses joueurs, parce qu'autrement les cartons vont tomber comme les essais hier du côté du Matmut Gerland. Donc il reste 3 minutes.
C'est mal fini quand même pour les Lyonnais hier.
Oui, ça s'est mal fini, exactement. Ouais. Donc les Lyonnais qui essayent d'accrocher là-bas. Malik Fofana qui a le contre-favorable, mais il y a hors-jeu, retour de hors-jeu. Les Auxerrois vont pouvoir se dégager. Il reste 3 minutes, 1-0 pour Lyon sur ce pénalty de la 45e plus 4.
Allez, plus 3 minutes, Roland. 3 minutes dans cette première mi-temps. Lyon qui mène à 1-0, qui a bénéficié d'un pénalty proprement parlé scandaleux.
Mais bon, non, mais les intérêts mis à part, j'attends de revoir ce pénalty.
Ah, on n'a pas revu la
c'est très rare. Parce que, alors, peut-être j'ai mal vu, mais j'attends avec impatience.
Bon, oui, parce qu'en plus, je te disais que Jérémy Stinat, quand il est revenu vers la ligne centrale, il avait le doigt sur l'oreille pour voir peut-être un appel de la VAR. Est-ce qu'on lui a dit, on va vite checker justement ce que tu indiques, coach? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà cette donnée. Mikotadze, il n'est pas hors jeu. Face à Donovan Léon, l'arrêt du gardien. C'était trop facile pour le gardien de la garde. Il l'a arrêté en deux temps. Il l'a d'abord freiné la trajectoire du ballon et ensuite l'a récupéré. Voilà le deuxième tir lyonnais qui, dans ce temps additionnel, alors qu'il reste 120 secondes, aurait pu permettre de faire le break avec Ovuchou qui récupère le ballon, qui va le donner à Gaëtan Perrin, très actif au milieu de terrain, que va faire le numéro 10 Auvert Bourguignon. Il y a une faute sur Kevin Danois. Donc l'Auxerrois, ça va donner un coup franc pour les Auxerrois. Pour Gaëtan Perrin, on est à 35 mètres plein axe par rapport à ses joues, très très rapidement sur Mensa côté gauche, le centre, et c'est récupéré par Lucas Perry qui va faire un long dégagement cette fois-ci à la main. Il y a Mikotadze qui est tout seul côté gauche face à deux Auxerrois. Elle va rentrer dans la surface de réparation, petite série de passements de jambes, il va centrer, il manque complètement son centre alors qu'il y avait un 3 contre 1. Il y avait Jordan Vertu qui était dans le coin, il y avait Saïd Benrahma, mais c'est complètement vendangé par celui qui a enfin marqué pour l'OL sur un pénalty. C'était il y a quelques secondes, quelques minutes de cela, son premier but, lui, le natif de Gerland, le natif de Lyon, qui a voulu revenir dans son club mais qui porte un poids visiblement un peu trop long, trop lourd sur les épaules, même si peut-être ce but va lui enlever justement ce poids. Les Lyonnais, alors qu'il reste 45 secondes, messieurs, avec Niakate côté gauche pour Tagliafico, l'Argentin, devant pour Malik Fofana dans cette rencontre. Première mi-temps totalement insipide avec un seul éclair. C'était la transversale trouvée par Malik Fofana. Et puis après une bizarrerie, ce pénalty accordé pour Lyon dans la série des PPL. Celui-ci, il va compter. Allez, Jérémy Stinat qui renvoie tout le monde au vestiaire dans cette première période.
Quand même.
Voilà, c'est quand bon. Même. Tu vas pouvoir aller faire ton 4 heures. Laurent Sec va pouvoir faire son flash et raconter simplement que Lyon mène 1-0 sur un pénalty bizarre, en l'occurrence de Georges Mikotadze.
Dans le match, il va finir à 5h15, si je compte bien.
Ah ben, ça va finir après le coup d'envoi des autres matchs. Donc on aura 4 matchs au lieu de 3 à 17h. A tout à l'heure, Edouard. C'est une très très longue mi-temps, une heure de mi-temps, effectivement. C'est comme ça, c'est le nouveau football. Le tennis, la finale à Bâle, où en est notre Français, Giovanni Mpeci Perica. Tu l'as bien retenu, Roland?
Oui.
Giovanni Mpeci Perica. Non, pas Ricard, non, ça c'est pas la même chose.
C'est non, parce qu'on peut lui donner un diminutif, on peut l'appeler Gio. On avait Gio, son gars, maintenant on a Gio. Giovanni qui mène 3-2 avec un service d'avant. GMP. Donc c'est bien parti pour le géant lyonnais qui, je le rappelle, n'a toujours pas été breaké de la semaine dans ce tournoi. Donc il a les armes en main. Puis, puisque je suis à Bercy, deux bonnes nouvelles, deux Français de plus dans le tableau final, Quentin Alice et Corentin Moutet, qui viennent de bénéficier de l'abandon du Tchèque Menchi. Donc on aura au moins 8 Français dans le tableau final et on attend normalement le programme en fin d'après-midi. Normalement Gasquet va jouer demain à mon avis, Christophe.
Bon, on espère qu'on en aura un au deuxième match. Tour au moins, ce serait pas mal quand même. À tout à l'heure Eric, il est 16h01 dans un instant les infos, ensuite on vous parle du classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain et puis de cette finale et puis la deuxième mi-temps qui débutera et on espère qu'elle dure un peu moins longtemps que la première entre Lyon et Auxerre. Donc on vous rappelle que les Lyonnais mènent 1-0 à la pause.
RMC Intégral Foot.